En 2017, le mathématicien James Lindsay, la médiéviste Helen Pluckrose et le philosophe Peter Boghossian ont joué avec les codes de l'édition académique et réussi à faire publier 7 pastiches dans des revues sérieuses en sciences humaines et sociales. Le dévoilement de leur canular a suscité un tel tollé dans les milieux intellectuels anglo-saxons qu'il a attiré notre attention sur le tabou sous-jacent, sur les rites et comportements collectifs qu'il exige et sur le prix de sa transgression. C'est le thème de notre discussion d'aujourd'hui. Vous écoutez Après coup. James Lindsay, Peter Boghossian et Helen Pluckrose ont commis la transgression d'écrire 20 articles à la sauce postmoderne.
Ouais.
20 articles dans des domaines de ce qu'ils ont appelé des grievance studies, des études de la plainte.
Oui, c'est ça. Fait. C'est une belle façon de le traduire. Hein? Des études des gens dont ils ont un a priori, qui sont faites léser et qui s'en plaignent. On peut dire ça?
Oui, fait que ça inclut les études féministes, mais les variantes qui sont venues dans la foulée,
ouais.
Aussi les études décoloniales, les études de genre ou de transgenrisme, les études, tu sais, il y en a beaucoup, beaucoup de départements d'études de cette nature-là, là, de la victimologie, si on peut le dire comme ça. Donc, la transgression, c'est d'avoir pastiché le style et de s'être vraiment inspiré sérieusement, c'est un travail sérieux qu'ils ont fait quand même,
ouais.
Des bons et des textes phares dans ces domaines-là et de les soumettre à des revues pour publication. 7 de leurs 20 articles ont été acceptés, 4 ont été publiés. L'expérience s'est arrêtée, c'est des canulars, hein? C'est une répétition. Là, il y a quelqu'un sur Wikipédia qui appelle ça l'affaire Sokal au carré.
Les années 90.
En fait, dans l'affaire Sokal Empire, parce que...
Il y en a fait plus.
C'est ça. Alain Sokal a soumis un article
ouais.
qui a été publié. Eux en ont soumis 20. L'affaire s'est arrêtée après les 7. Première acceptation de leurs articles parce que un journaliste a flairé l'affaire et s'est mis à poser des questions.
Ah,
en fait, c'est
pas.
Quelqu'un qui est à l'extérieur des milieux de la publication, des publications universitaires, des publications sérieuses, qui a levé le lapin ou qui a commencé à poser des questions et qui a révélé l'affaire. Et donc, l'expérience s'est arrêtée à ce moment-là. Tout a été révélé. Ils ont avoué ce qu'ils avaient fait. C'était une expérience qui visait à démontrer qu'il y avait une logique intrinsèque, là, une logique particulière à la publication des revues dans certains domaines, qui inclut la sociologie, l'anthropologie et toutes les grievance studies, la littérature et les grievance studies, que cette logique-là était une logique qui fonctionnait sur un certain nombre de présupposés et qu'il suffisait de mimer les présupposés
Pour que ça passe. Ça
pour arriver à être publié
ouais.
par des pairs. Tu sais, on entend beaucoup ça, là, par les temps qui courent. Révisé par les pairs.
Ouais.
C'est comme une garant, c'est garant du sérieux de ce qu'on fait.
Ouais.
Et les articles qu'ils ont écrits, c'est des articles intentionnellement faux. C'est-à-dire, c'est des...
C'est construit du début à la fin.
C'est construit du début
à
la fin.
Ils s'assoient ensemble, puis ils essaient de pondre autant de phrases qui ressemblent à ce qui serait accepté, puis voilà. Tu sais, c'est pas basé sur rien d'autre. Là.
Mais ils l'ont fait avec sérieux, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ont lu les références, ils ont lu ce qui se publiait dans le domaine... Et ils ont proposé des articles
Parce que c'est une expérience qui s'est faite en deux temps. Le premier temps, c'est qu'ils ont essayé d'envoyer des articles. C'était comme un peu plus paresseux, disons, qui avait l'air d'eux.
Ouais.
Ça a été refusé. Puis ils se sont dit, OK, il faut qu'on soit plus sérieux dans notre canular.
Ouais.
Il faut qu'on fasse vraiment attention à comprendre la cohérence ou la structure des publications qui sont reçues dans ces revues-là pour pouvoir les pasticher correctement. Alors, oui.
Mais eux autres, leur but, c'était pas tant, à ce que je comprends, de montrer que des revues soi-disant scientifiques sont pas scientifiques. C'était pas tant de faire la démonstration que les revues où il y a des révisions par les pairs sont pas aussi solides qu'on peut le penser. Même bien qu'il y avait de ça aussi. Hein? En fait, mm-hmm. Il y avait de ça aussi.
Oui, il y avait de... Oui.
Il y avait de ça aussi. Et ça, bon, c'est ce que c'est. Malgré que, j'avoue que pour moi, c'est comme l'aspect qui est un peu moins solide dans le sens que, tu sais, l'idée... Parce que c'est des profs d'université, il faut le dire. Fait qu'ils sont ferrés en...
C'est des intellectuels.
Oui.
Il y a un prof d'université, je vais juste le préciser, oui. Parce que lui subit des conséquences très importantes. Les deux autres, c'est des intellectuels, donc un docteur en mathématiques et une fille qui a travaillé en qui a une maîtrise, qui a arrêté ses études doctorales en études médiévales, littérature médiévale.
Ouais.
C'est des intellectuels, tu sais.
Fait que j'avoue que je suis un peu... Tu sais, par rapport à cet aspect-là, tu sais, admettons que t'es ferré en littérature, puis t'étudies en littérature, puis que tu t'y connais, puis que tu connais Godard, puis tu serais-tu capable de pondre une interprétation d'un film qui est un peu échevelé, mais tu sais, tu y vas all out, puis finalement, il y a du monde qui lit ça, puis les pairs, puis... Parce que tu sais, à un moment donné, quand c'est revisé par les pairs, c'est ce que c'est aussi. Quand t'as été pair dans une revue de pairs, tu sais que... T'es pas toujours un expert pointu sur ce dont la personne parle, puis tu passes pas des années non plus à décortiquer tout. Tu sais, souvent tu lis, puis tu fais des commentaires, puis il y a des reviseurs qui sont plus sévères que d'autres. Il y a aussi des pressions qu'à un moment donné, des pressions de la vie, que la revue a besoin de 10 articles par année, puis il en manque 2, puis il n'est pas si mauvais, allons-y. T'sais.
Mm-hmm.
Fait que.
Je veux dire, c'est pas la fin du monde.
Ben non, ni si surprenant, tu sais. Tu sais, je pense que si des gens se mettaient à vouloir essayer, des gens qui sont experts dans un domaine ou qui se connaissent quand même pas mal, à vouloir faire passer des théories ou des trucs dans des revues de pairs, tu sais, dans certains domaines qui, il faut le dire, là, où, parce qu'ils s'appuyaient pas sur des données, tu sais, ils arrivaient... Ben, dans un article, il y avait des données, hein, dans un article...
Mais c'était des données inventées, c'est
oui, mais il y en avait.
Oui, où on prétendait avoir observé, être intervenu
ouais.
dans un parc à chiens, pour démontrer quelque chose qui avait rapport avec la
domination masculine.
C'est ça, la domination masculine.
Qu'on intervenait plus quand les chiens étaient morts ou contre.
C'est ça, puis ça avait rapport avec l'orientation sexuelle du maître du chien,
ouais, ouais, ouais.
Quelque chose de... Où on prétendait avoir observé 10 000 chiens dans un parc à chiens, je pense, de Portland, en Oregon.
Ouais.
Ce que... N'importe quel propriétaire de chien peut te dire, sait d'avance ce qui est faux. C'est impossible que tu aies 10 000 chiens qui passent dans un parc à chiens, même populeux.
Ouais.
C'est énorme, là.
Ouais.
C'est, ça, c'était une fausse donnée qui
jure, là.
Ben, eux, d'après eux, là, un des auteurs dit mais en fait ça saute ça on a fait exprès ça crève les yeux, c'est impossible d'avoir
ouais.
accumulé autant de données, autant d'informations, autant de sujets dans un parc à chiens. Mais donc ça c'est une fausse donnée.
Mais ils sont fait connaître.
Et ça a passé.
Oui.
Et l'article a été considéré comme une c'est comme une contribution importante
ouais.
à l'avancement de la connaissance.
Mais tu sais, il faut dire, ils se sont fait connaître par les canulars, mais en fait, bien qu'ils voulaient démontrer qu'il y avait des revues qui n'étaient pas sérieuses, on peut dire comme ça, c'était pas l'essentiel de leur propre grievance. C'était pas ça l'affaire.
C'est-à-dire
qu'ils
n'en
ont pas tant que ça contre les revues scientifiques. Comment on peut dire? Parce que, tu sais, ils ont vraiment un ennemi qu'ils ont identifié. Moi, ça m'a frappé à réécouter, parce qu'en fait, il y a plein de podcasts qui ont interviewé beaucoup, beaucoup, ont produit beaucoup de matériel sur
oui.
cette histoire-là.
Oui.
Et à les écouter parler, il y a un réel danger dont ils n'arrêtent pas de répéter que les gens ne prennent pas la mesure à vouloir, en fait, c'est un peu comme s'ils disent, dans ces études-là, les études féministes, les études sur les gender studies, il y a comme quelque chose de radical où la connaissance est subjective. Puis, mm-hmm. on peut dire ça, hein?
Oui.
Puis eux disent ça va infiltrer partout l'idée que tout est socialement construit, et donc tout ce qui se passe dans la vie, il y a, à la limite, là, je l'exagère pour le dire, là, mais c'est comme si la biologie, ou ce qui est biologique, ou ce qui serait inné, aurait très peu d'importance. Tout est socialement construit. Alors, quand il y a quelque chose qui domine, quand il y a quelque chose qui existe, ben, on peut changer cet élément-là.
En changeant le discours.
En changeant le discours.
Sur l'élément, parce que c'est tout un construit, c'est ça, tout est un construit social.
Dont oui. le fait qu'il y a des hommes qui se pensent des hommes et des femmes qui se pensent des femmes, tout ça serait socialement construit. Et tout ce qui va avec. Il n'y aurait pas oui. de raison, en fait, d'avoir, de définir ça si, d'une façon si binaire, en fait. D'une oui. façon binaire, point.
Là. Oui.
Alors, le genre est socialement construit. Puis là, ben, ça crée tout un mouvement dont eux, ils expliquent qu'ils ont subi les répercussions et qu'on va continuer à subir les répercussions où, ben, finalement, le mâle est socialement dominant, tout ce qui est de l'ordre du mâle est socialement dominant dans la société. Il n'y a pas de raison parce que ça a été construit comme ça, mais il n'y a pas de raison que ça soit comme ça. Alors, c'est, puis plus que ça, mais c'est à la limite, c'est la source de tout le mal, tu sais, it's the root of all evil, mm-hmm. et il faut faire en sorte de briser ça d'une façon très proactive. Puis là, c'est là qu'ils expliquent plein de choses qu'ils ont vécu autour. Donc, tout est remis en question. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de raison d'avoir... mais il n'y a rien qui doit dominer, il n'y a rien qui doit...
C'est ça, en fait, c'est ça la logique, c'est... dans une société, il y a des dominants, il y a des dominés. Il y a ouais. des oppresseurs, il y a des opprimés. C'est comme une logique binaire, ouais. comme ça. Et on peut en retracer la structure dans le langage et dans les constructions sociales.
Ouais.
Et ces rapports-là de domination sont arbitraires, mais perdurent depuis longtemps. Et il est nécessaire de déconstruire ça. C'est il y a ça. Comme une logique de déconstruction
ouais.
qui existe dans le monde intellectuel universitaire. Dans des domaines de sciences humaines, de littérature, art-littérature, il y a toute une articulation intellectuelle de ça qui a eu comme une origine, il y a une genèse à ça. Il y a des auteurs qui ont inspiré... bon, puis ces auteurs-là et cette logique-là a de plus en plus d'influence dans les universités et eux estiment que ça aboutit à une impasse. Et en fait, un des problèmes qu'ils ont, c'est premièrement le fait que leur perception, c'est à l'effet que c'est une idéologie, c'est une théorie qui confine à l'idéologie, à la limite proche de l'idéologie ou de la pensée religieuse, pour toutes sortes de raisons, et aussi qu'elle fait fi des faits, c'est-à-dire qu'elle est structurée d'une façon qui permet... de se passer ou qui invite même, qui encourage à ne pas se mesurer à la réalité, qui encourage l'idée que la réalité au complet est un construit social.
Oui, la réalité, oui, exactement.
Et dans, c'est ça aussi. Donc, on ne peut jamais évaluer la valeur de la théorie vu que la réalité n'existe pas.
C'est ça. Mais puis pour le dire vite, dans ce schéma-là, ceux qui dominent historiquement, ce sont les hommes et les hommes blancs. Donc, d'emblée, les autres, c'est ce qu'ils disent avoir vécu. Si t'es un homme blanc, t'es coupable et tu dois t'excuser.
Mm-hmm.
Et là, ils donnent des exemples de ça, en fait, de tous les moments où, dans les universités spécifiquement, parce qu'ils sont issus beaucoup des universités, il y a des gens qui se sont dit, ben oui, effectivement, Et donc des gens qui, eux autres, qui vont dire qu'ils se sentent obligés, parce que tout est vu dans cette lunette-là, même s'ils n'ont rien fait de particulier, là, de s'excuser d'être homme blanc et d'avoir été structurellement raciste. Donc pas raciste par des gestes ou par des paroles ou par des hommes, mais juste du fait d'être un recteur à l'université blanc, ben nécessairement, c'est ça, comme ça, ça montre le racisme de l'affaire, puisque tout le monde, puisqu'il est blanc, qui est un homme.
C'est ça. Fait
que d'emblée.
C'est ça.
Et ben donc, là, il donne des images, on voit des entrevues avec des recteurs qui, effectivement, disent oui. On vit dans un monde structuré d'une façon à favoriser les hommes blancs. Je suis un homme blanc, je suis dans une situation de pouvoir, je m'excuse, et il faut que j'apprenne, et il faut que je vous écoute. Et puis là, il y a des jeunes qui protestent, puis là, tout le monde se confond en excuses, puis ils se sentent mal. Puis là, c'est un peu ça. Cette semaine, j'écoutais, il y a quelqu'un qui fait pas partie des trois, j'oublie son nom, qui à un moment donné a protesté contre quelque chose dans une université, tu sais. Il y avait une journée où, en fait, il fallait que les Blancs sortent de l'université.
Brett Weinstein, c'est hallucinant ce qui est arrivé, oui.
Oui. Fait que là, lui, il a refusé. Puis, tu sais, il a refusé de rester chez lui lors d'une journée où les Blancs devaient sortir de l'université.
C'est pas simplement ça, si tu me permets d'intervenir. Vas-y. C'est pas seulement qu'il a refusé de sortir, c'est qu'il a mis en garde. Brett Weinstein, c'est un gars de gauche, très, très à gauche, qui enseigne dans une université communautaire.
Mm-hmm. Evergreen College.
Ouais. State College.
Ouais.
Qui est une université très progressiste, qui s'est toujours voulu innovante, qui a toujours voulu aller dans le sens d'encourager la proximité entre le corps enseignant et les étudiants. Tu sais, comme une université d'ouverture qui veut favoriser la mouvance sociale, tu sais.
Ouais.
Et lui, c'était donc un prof de biologie très progressiste qui s'est opposé à une journée qui est... Il y a une journée traditionnellement, une journée annuelle où les étudiants noirs et le corps professoral noir, afro-américain, s'absentent de l'université dans le but de démontrer leur importance quand ils sont là, de se montrer visible en s'absentant,
ouais.
qu'on constate l'effet de leur absence.
Ouais.
Et cette année-là, il y a eu comme un désir d'inversion des choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fortement encouragé les étudiants et les enseignants, professeurs blancs, à quitter l'école en soutien à l'antiracisme, etc. Et ce que lui a décidé, ce que lui a d'abord, il s'est opposé, puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé une communication pour exprimer pourquoi il s'opposait.
Ouais.
C'est pas du tout qu'il s'opposait aux efforts de déconstruction des rapports raciaux entre les gens.
Right.
C'est que il s'opposait à l'idée qu'un groupe de gens demande à un autre groupe de gens de ne pas être quelque part.
Mm-hmm.
Tu sais, c'était parce que pour lui, ça compromettait la logique de l'événement. Et donc, il était en désaccord. Et à partir de là, tout s'est bousculé. Il y a eu des émeutes dans cette université-là. Lui a été menacé physiquement. Il a passé pour un raciste. On a demandé sa démission et finalement, on l'a obtenu.
Oui. Puis vraiment, hein, d'une façon là, où... comme il était comme coupable d'emblée, il n'y avait même plus de place pour vraiment expliquer. À partir du moment où il a envoyé ce courriel-là, il était comme piégé parce qu'il y avait des étudiants qui manifestaient, des social justice warriors. Mais il était coincé, puis ça s'est fait d'une façon, en fait... Il ne pouvait plus s'en sortir.
C'est ça.
Puis c'est paradoxal parce que les gens qui disent être sensibles au racisme ambiant structurel, paradoxalement, sont ceux qui mettent tellement d'emphase là-dessus qu'ils finissent à un moment donné par tout voir par cette perspective-là, qui est une forme de racisme dans un sens. Puis c'est ça un peu contre ça qu'il se débattait, tu sais, parce que lui, il dit des fois, il dit oui, mais OK, mais je veux dire, je ne peux pas être coupable d'être raciste juste du fait d'être blanc, tu sais. Ça marche pas, tu sais, je peux parler, je peux expliquer, je peux montrer, je peux regarder ce que j'ai fait, mais non! C'est vrai que c'est particulier parce que il était comme vraiment menotté par un début de discours, puis il ne peut plus s'en sortir.
Mais c'est aussi la mentalité, ce qui est comme dans le... Lui, Brett Weinstein, puis peut-être, ça vaut la peine là, de parler de lui en particulier, puis de tout ce qui s'est passé au Evergreen State College, parce que c'est très, très riche d'enseignement, à mon humble avis. Mais ce que lui a fait en quittant, c'est qu'il a parti son podcast, puis il y a tout un univers là, de gens qui sont des exclus du monde académique maintenant, ouais. puis qui se sont retrouvés et qui produisent l'information. Puis lui, sa référence, c'est ce qu'il appelle « the game theory ». C'est qu'il y a derrière ça, selon lui, une articulation logique qui est dangereuse. Non seulement qui agit dans le sens contraire de ce qu'elle prétend, mais qui, en plus, met en danger la structure même, par exemple, de l'université, la structure même du savoir. Puis c'est dans une logique de rapport de force, de game theory, des acteurs...
Qui vont l'emporter. Ouais.
C'est ça. Fait que là, on est en train de parler de grievance studies qui s'inscrivent dans la suite de ce qu'ils appellent aux États-Unis la French theory, qui est la réflexion ou la pensée d'une époque post-68 en France.
Ouais.
Puis là, on parle de gens qu'on peut nommer, qui sont des Michel Foucault. C'est des gens qui m'ont formé, là. Tu sais, des Michel Foucault, des Jacques Derrida, des Gilles Deleuze, tu sais, des Louis Althusser, des gens de cette époque-là qui ont commencé par être structuralistes et qui sont devenus post-structuralistes et qui ont eu leurs heures de gloire, qui sont renés par la suite aux États-Unis, sous une autre forme, une forme militante.
Exact.
C'est que la logique, c'est une logique de tout passe par le langage, comme dirait Lacan, tout est langage, ou tu sais, l'inconscient est structuré comme un langage. Dans le discours même, on reproduit les rapports d'oppression. Il y a toujours un ordre social qui produit des exclus. Ouais. Donc, il y a toujours un rapport d'opprimant et d'opprimé.
Ouais.
Et là, on retrouve ça dans la forme de les opprimés sont un certain nombre de groupes qui sont ceux qui sont au Canada protégés par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Et cette articulation-là, c'est une articulation de pouvoir. Puis là, il y a comme un effort de rétablir d'établir un autre rapport de force.
Et quand on dit que les gens sont woke, c'est l'idée, pour le traduire, là, tu me corrigeras, mais comme ils sont réveillés à cette existence de ce rapport de force-là et déterminés à le changer.
Oui, à l'inverser.
Oui, ben c'est là l'affaire. Est-ce qu'ils veulent rétablir un équilibre?
Brett Weinstein, c'est ça son argument.
C'est qu'ils ne sont pas tant intéressés à ramener une espèce d'équilibre, mais bien à take over.
C'est ça.
Amener.
C'est ça, on va inverser.
Ouais. Mais là, c'est là par contre que c'est pas simple parce que, tu sais, c'est vrai qu'il y a des structures qui favorisent certains groupes, tu sais, il y a du monde au pouvoir, puis ceux qui sont au pouvoir ont toujours le beau jeu, puis là je parle de façon générale, là, mais des fois de dire « oui, on accepte de faire des concessions, puis de relâcher un peu de pouvoir, mais tu sais, on va le faire tranquillement, on va le faire à notre façon, on va le faire d'une façon graduelle, d'une façon en fait que c'est pas vraiment fait. »
C'est ça, c'est du blabla.
Puis c'est vrai des fois que pour ceux qui sont opprimés, que pour qu'il y ait quelque chose qui fonctionne, c'est vrai que des fois il faut donner un coup de barre.
Oui.
Puis tu sais, faire un éclat.
Faire la révolution.
Oui, puis des fois, c'est vrai qu'on peut toujours dire, quand on est du côté du pouvoir, ah, mais là, c'est beaucoup trop fort, puis il faudrait faire ça d'une façon en dialoguant, puis tout ça. Mais d'une façon où il ne va rien se passer, tu sais.
Oui.
Fait que c'est là que, moi, des fois, j'étais un peu hésitant par rapport à. C'est sûr, quand on voit les exemples qu'ils donnent, on se dit, ah, les social justice warriors, ils vont fort.
Oui.
Puis ils empêchent du monde de parler, dont Brett Weinstein, puis tout ça, tu sais. Mais en même temps, c'est vrai que pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, s'ils font juste suggérer un dialogue, ça va devenir un ronron, mais ils ne se passera rien.
Tout à fait. D'un autre côté, tu te dis, ben oui, tu peux avoir des révolutions. Il y en a eu, des révolutions, qui, comme on dit, mangent leurs enfants.
Mm.
C'est-à-dire que tu fais la révolution, c'est l'instauration d'un nouveau pouvoir qui répond pas nécessairement aux objectifs de la révolution.
Et de la résistance.
C'est ça.
Tu peux juste créer... Ben, c'est un peu ce qu'on peut reprocher au grand Manitou, au grand gourou des grievance studies ou des social justice warriors, c'est qu'à un moment donné, ils vont se mettre dans une position où ils sont au pouvoir, puis où si toi, tu n'es pas d'accord avec eux ou que tu remets en question, ils t'assomment fort avec des accusations de racisme. Puis là, ben, les gens se taisent ou s'en vont.
C'est ça.
Ou s'excusent. Puis là, t'as vraiment encore des dominants, des dominés, mais c'est juste inversé. Et puis eux autres, c'est ce qu'ils reprochent. Parce qu'il y a beaucoup ça, tu sais, quand t'écoutes les trois, là, les trois mousquetaires des Graven Studies, tu sais, ils ont vraiment identifié, c'est ça qui m'a interpellé, un ennemi qui, pis c'est grave, puis ils ont des multiples exemples de comment c'est grave et que ça s'empire, puis là, ils sont encouragés par, en fait, tous les courriels qu'ils reçoivent de gens qui disent « Regarde ce qui est arrivé à mon travail. T'sais, ils m'ont demandé de suivre une formation, puis de m'excuser. Fait que là, ils ont comme de plus en plus de munitions pour montrer ce qui se passe, en fait. Là.
Mais c'est que c'est une pensée. Eux, leur intérêt, c'est à l'intérieur de l'université.
Mm-hmm.
Eux, leur intérêt, c'est au niveau conceptuel. Comment l'ensemble de ces disciplines-là s'est formé? Qu'est-ce qui domine comme théorie à l'intérieur de l'ensemble de ces domaines-là, puis comment on peut les comprendre, puis comment on peut les situer dans l'histoire, puis quels en sont les effets à l'intérieur de l'université. Et là, ils ont des réponses, des gens qui réagissent à leurs travaux à l'extérieur de l'université. Mais eux, leur intérêt, c'est un intérêt académique et intellectuel, tu sais?
Effectivement.
Mais t'as quelque chose qui se passe réellement. Ces idées-là, qui sont les idées issues de ce qu'eux appellent les Graven Studies, les idées des rapports de domination, des rapports de force, sont devenues des idées tellement fortes et contagieuses qu'elles se répandent dans les départements de ressources humaines, dans... Bon, une Hélène Pluck-Rose, ce que j'écoutais tantôt, là, elle explique sa difficulté à étudier ce qui était son champ d'intérêt principal, qui était le féminisme, la manière dont un certain féminisme pouvait s'exprimer dans la littérature médiévale du Moyen-Âge, à travers des écrits religieux, entre autres. Tu sais, c'est très pointu.
Oui.
Et elle a fini par quitter l'université parce qu'elle n'arrivait pas à articuler ses intérêts de recherche à l'intérieur d'un département qui était un département de littérature anglaise, d'un département qui était tellement marqué idéologiquement que c'était impossible de sortir l'idéologie.
Mais alors, peut-être qu'il faut mieux spécifier ou plus dire, parce que c'est pas juste et c'est même pas du tout un débat intellectuel en différents groupes, mais il y a de ça, là, mais c'est pas juste « Ah, eux, ils pensent ça, puis... » D'autres pensent d'autres choses, puis ils débattent à l'intérieur de l'université, puis c'est un blabla universitaire. C'est qu'il y a en fait, c'est pour ça qu'on en parle dans un contexte de transgression. Tu sais, Brett Weinstein, de par sa position où il exprimait un refus de faire quelque chose, il a été pris dans le « cancel culture ».
Oui.
Rapidement, c'est pas des années plus tard. Pis,
oui, puis c'est extrêmement violent.
Oui. Fait qu'il y a ça de transgression aussi, où...
Il y a une nouvelle norme qui s'est installée à l'intérieur des universités et qui se répand dans la société, entre autres via Twitter, qui est une nouvelle norme, mais dont les règles sont assez floues pour qu'on soit toujours à risque de les transgresser sans faire exprès, puis de se retrouver dans le rôle du criminel ou du bouc émissaire là, René Girard là, c'est comme d'être sacrifié sur la place publique, de perdre son emploi, de craindre pour sa vie, comme ça a été le cas de Brett Weinstein, comme c'est le cas aussi de Peter Boghossian. Son poste est en cause à l'université, donc ça c'est un des auteurs des Oaks Papers, du canular.
Ouais.
Il a reçu des menaces chez lui. C'est vraiment intense. Pour avoir publié des canulars dans des revues scientifiques.
Ouais, puis pour s'être opposé aussi à l'idée. Parce que, tu sais, quelqu'un pourrait dire, ben, il aurait pu contrecarrer ça en disant simplement je fais structurellement partie du problème, je dois apprendre sur la réalité des gens que j'ai opprimés dans le passé, je suis prêt à écouter, j'admets mon ignorance, je m'excuse. Et parce que c'est un peu ça qu'il demande, en fait. Hein? Parce qu'on voit ça aussi dans le cas de Brett Weinstein. Il y a le recteur du Evergreen State College, à un moment donné, qui dit ça, essentiellement. Il dit « Je m'excuse, je fais partie du problème, je suis prêt à apprendre, je vous écoute. » Puis vraiment, qui prend cette position-là, très oui. soumise, puis là, les jeunes applaudissent. T'sais.
Oui.
Puis oui, Brett Weinstein, il prend pas cette position-là. En fait, il est prêt à discuter, il est prêt à débattre, il est prêt à expliquer pourquoi, mais il veut pas d'emblée dire... je fais partie d'un système qui opprime et je comprends, je peux pas comprendre jusqu'à quel point vous êtes opprimé et je m'en excuse. Tu sais, il y a ça qui refuse.
Mais c'est, oui,
mais c'est, mais... c'est un passage obligé, c'est ça l'affaire aussi. Sinon, elle risque d'être cancellée, tu sais.
Oui, c'est ça.
Et, mais là, lui, ce qui, excuse-moi, lui, ce qui l'a interpellé aussi, à ce que je comprends, là, c'est qu'il s'attendait à ce que d'autres profs autour de lui... soit la défendre ou soit dire « ben oui, c'est vrai, on peut en discuter de tout ça », mais plusieurs ont pris la position de dire d'emblée « ben oui, effectivement, on fait aussi partie des oppresseurs, on s'en excuse ». Fait qu'ils sont comme tout un peu, selon lui, écroulés autour de lui, tu sais, ce qui faisait qu'il y avait un bouc émissaire, puis c'était lui.
Oui.
Tandis que les autres, ils disaient « regarde, nous, on n'est pas comme lui ».
Oui, mais en fait, c'est une game de pouvoir en différentes factions à l'intérieur de l'université, puis les étudiants ont pris fait et cause pour une des deux factions. C'est une interprétation que je fais, là. J'ai peut-être tort, mais tu as des étudiants qui ont pris fait et cause pour une interprétation au détriment de l'autre, mais avec toute la force de leur jeunesse ouais. et de leur idéalisme, puis ils sont allés très loin. Tu avais des étudiants qui se promenaient sur le campus universitaire avec des battes de baseball, tu sais. Ouais. Au ça, nom vois? De l'antiracisme, dans une université progressiste, tu sais, on n'était pas dans le fin fond de l'Alabama ou c'est là où il y a, tu sais, puis contre des professeurs qui défendaient une position, mais pas pas à partir d'un point de vue raciste ou racial ou tu sais, mais à partir d'un point de vue d'efficacité des moyens de sensibilisation puis d'intervention, tu sais.
Ouais. Ouais. Mais tu sais, moi, j'avoue qu'en les écoutant, puis tu sais, j'ai écouté ce que j'ai écouté, là, parce qu'on pourrait passer des semaines juste à écouter tout ce qui a été produit. Hein.
Oui.
Mais c'est vrai que des fois, là où j'étais dubitatif, où j'étais plus sûr de la légitimité de leur affaire, mais pas de la légitimité, mais tu sais, en fait, mon bug, c'est que puis je comprends l'idée que moi, je ne l'ai pas vécu. Puis qu'eux autres, ils l'ont vraiment vécu. T'sais, Brett Weinstein, là, j'ai vu le documentaire. Là, il a vécu des étudiants qui pourchassent en vélo. Puis, tu sais, je comprends. Là. Fait que je ne minimise pas, puis je ne dis pas que...
C'est effrayant, c'est traumatisant. Oui,
tout à fait.
N'importe qui te faire courir après par une horde de monde.
Puis du jour au lendemain, il ne peut plus rentrer à son école.
Puis que toi, t'es comme tes bonnes volontés. Puis ce qu'on dit de toi, c'est pas ça du tout. Puis si tu veux essayer, tu sais...
Mais la seule chose, c'est que les trois autres des auteurs des Hoax Papers... Ce qui m'énervait à la longue, c'est que j'avais l'impression que... Comment dire? Tu sais, c'est un peu comme quand t'écoutes du monde de gauche. Il y a ça aujourd'hui sur Twitter, plus que jamais, je trouve. C'est des gens, mettons, très à gauche, qui sont intelligents, puis qui ont une capacité à caricaturer ceux de droite, tu sais. Mm-hmm. Fait que si t'es dans la gang de gauche, à un moment donné, tu vois juste la caricature de la droite... Puis ils passent vraiment pour des idiots, mais puis en même temps, c'est vrai, tu sais. C'est un extrait vidéo d'un vrai gars de droite qui a dit okay. « c'est épouvantable », tu sais. Mais si tu écoutes du monde de droite, mais il y a aussi du monde qui ironise le pire de la gauche pointue, puis que là, ils disent hey, « la gauche est folle, regardez, elle a mis le feu à tel endroit, ça n'a aucun sens ».
Oui, oui, c'est la sophisme de l'homme de paille.
Ouais, c'est quand t'es comme pris dans deux caricatures qui se parlent jamais.
Oui.
Fait que c'est là qu'à un moment donné, moi... comme je suis pas dans leur monde, que j'avais l'impression qu'ils... J'avais l'impression à raccrocher, mais tu sais, de qui ils parlent? Puis il y a pas moyen qu'ils dialoguent avec d'autres mondes, tu sais, c'est comme... Leur ennemi est très fort, tu sais, eux autres, ils disent vraiment, là, « they're taking over », puis ça va être grave tantôt.
Oui.
Puis, en fait, ils diraient de moi que j'ai pas encore réalisé la force de ce mouvement-là, puis que je l'ai pas encore subi, mais que la vague m'atteigne, je vais regretter d'avoir dit... il démonise l'ennemi trop radicalement. Hein. Mais c'est vrai que moi, des fois, j'avais la misère à savoir de qui il parle tant que ça, tu sais. Qui est si extrême que ça, ou, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui. Puis admettons que je te dis... En tant que quelqu'un qui est à l'extérieur complètement de tout regroupement de idéologique, t'sais. Que quand t'as à Radio-Canada une animatrice vedette qui présente un livre, comme s'il était nouveau d'ailleurs, là, un livre d'une auteure qui s'appelle Robin DiAngelo. Un livre qui s'appelle White Fragility et qui te présente ce livre-là en disant c'est une Bible. Et que ce livre-là, ce qu'il est en fait, d'abord cette femme-là, Robin DiAngelo, c'est pas quelqu'un qui débat, hein? C'est quelqu'un qui enseigne unidirectionnellement. Mm. C'est quelqu'un qui a une histoire à elle. Qui a eu une sorte de d'éveil. C'est une femme blanche qui enseigne aux blancs comment, aux blancs américains, là on est dans, ouais. Tu sais, aux blancs américains, comment toute leur éducation et toute leur vie et toute la structure de la société qui les traverse est marquée de racisme et comment chacune de leurs pensées doit être évalué à l'ombre d'un racisme qui est inné.
Ouais.
Pas qui est inné, pas au sens génétique, mais au sens culturel.
Ouais.
Et qui doivent continuellement... Que la question n'est pas de savoir si tel ou tel événement est raciste, mais de savoir comment tel événement est raciste. Ça, t'as ça sur une grande chaîne... Tu comprends?
Ouais.
À une heure d'écoute,
ouais.
Par une vedette, au Québec,
ouais.
Présentée comme une Bible, qui est c'est juste le prolongement, en fait, cette femme-là, Robin DiAngelo, puis t'as comme toute une catégorie d'auteurs qui font des best-sellers dans cette logique-là.
Ouais.
Je dirais, ben oui, tu sais, puis que j'ai des patients et des patientes personnellement, qui en font écho à différents niveaux,
ouais.
Des étudiants universitaires ou des gens qui travaillent en ressources humaines, ou, tu sais, qui sont imbibés d'une logique qui est en train de se répandre et qui articule le monde, c'est comme qui lit le monde en termes d'oppresseurs et d'opprimés,
mm-hmm.
Que je reconnais, tu sais, d'une façon que je reconnais tout à fait, moi, dans ces...
Ouais.
Dont je reconnais le prolongement, qui est comme le prolongement de la logique développée dans les universités qui a été identifiée par les auteurs de ces articles-là qui ont été publiés. Tu comprends? C'est une logique qui a un truc interne, mais qui ne se soucie pas de faits ou de tu comprends, d'études empiriques.
Mm. Mais puis aussi, mais surtout, trouves-tu que qui va au-delà de juste dire, ben, tu sais, réfléchissons à cette nouvelle façon de voir le monde.
Qui a tout à fait
sa
pertinence.
Effectivement, oui, là, parce que, tu sais, ça existe des structures sociétales qui favorisent tel groupe ou l'autre.
Puis tous nos biais, biais qu'on a, sans s'en rendre compte, oui.
Mais tu sais, qui va au-delà de ça de beaucoup, mais qui dirait, en fait... Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est comme une vague. Si t'es pas dans la vague, si t'es pas dans le courant, puis tu t'opposes ou tu questionnes ou que tu refutes, tu peux être cancellé. Tu sais, c'est le truc
oui.
C'est cette affaire-là, je pense.
C'est la violence, c'est le tabou. C'est comme il y a un tabou.
Ouais.
Puis ça correspond à toute la structure de tu sais, c'est comme t'as l'instauration d'un tabou, puis des maîtres du temple.
Gens
qui, dont la parole, tu sais, qui énoncent les règles et dont la parole est inquestionnable.
C'est ça. Puis l'accusation qui tombe, d'où la transgression, là, c'est le rapport avec la transgression aussi, c'est que si t'es pas d'accord ou que t'émets des doutes ou que tu veux discuter ou que tu veux minimiser, tu sais, c'est sexiste et raciste.
Oui,
c'est...
homophobe, transphobe, grossophobe.
Ouais. Et boum, boum, boum. Et là, ça tombe.
Et là, ta punition, à moins que tu te repentes,
ouais.
c'est d'être annulé socialement
ouais.
par la force de la rumeur.
Oui, c'est ça.
Sur Twitter.
Oui.
Et ça marche.
Oui.
Et il y en a... je m'excuse de le dire, il y en a dont c'est la principale activité de passer leur vie sur Twitter par, ou sur Internet pour chercher des gens à dénoncer.
Ça, moi, je peux vraiment penser que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on va repenser aux années 2020 en disant c'était très primitif comment dans ce temps-là tu pouvais... Tu sais, c'est la blague, là. C'est pas la blague parce que c'est arrivé, mais c'est la personne qui est à l'aéroport puis qui s'en va... je me rappelle plus, je pense que c'est en Afrique. S'en va,
oui.
Elle prend l'avion pour longtemps. Là. Puis avant de partir, je pense que je l'ai déjà raconté.
Oui.
Je me répète. Hein.
Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Finalement, c'est retour au même.
Exact. Mais je me l'ai déjà raconté, ça m'arrive. Mais donc, c'est ça. Qui écrit une blague, puis déplacée de mauvais goût, tu sais, que quand t'entends la personne le dire avec les mimiques puis le clin d'œil, ça peut passer, mais qui crie froidement, ça fait sursauter, qui prend l'avion, quand elle sort de l'avion 10 heures plus tard, elle a perdu son emploi, son appartement, ça, comme tout s'est écroulé, tu sais, d'une façon où je pense que dans 20 ans, on pourra se dire, c'était épouvantable comment en 2020, il y avait cette espèce de nouveau tribunal Twitter là, qui pouvait vraiment drastiquement mettre du monde à l'écart sans leur donner la chance d'expliquer, de justifier, puis de façon des fois complètement disproportionnée. Tu peux avoir des vrais criminels qui ont fait des choses affreuses, qui passent des mois entre avocats à négocier des peines qui sont pas si fortes, t'sais. Puis une personne fait une blague de mauvais goût, là. Puis boum, c'est terminé.
Oui.
C'est terminé pour elle, c'est terminé pour lui. T'sais.
Pourquoi, pendant que tu me parles, tu me diras... J'ai Le nom de la rose, le film, en fait, Le nom de la rose, que j'ai en tête, Le nom de la rose, tu sais, t'as à l'intérieur d'un monastère, moi je trouve que c'est une œuvre de génie, là, c'est un de mes films préférés de tous les temps, là. À l'intérieur d'un monastère, une série de meurtres ou de morts, t'as des morts non expliquées, alors arrive le Sean Connery, le franciscain,
ouais.
avec son apprenti, qui, lui, c'est lui qui raconte l'histoire, l'apprenti, qui raconte l'histoire de l'enquête menée par lui-même et par son maître, sous la direction de son maître. Puis là, bon, ben, t'as toute l'enquête, c'est un meurtre et mystère vraiment palpitant, qui t'amène à des conclusions. Pourquoi tous ces gens-là sont morts? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment sont-ils morts? Ça tourne autour du fait qu'ils ont lu la version qui a disparu maintenant, c'est-à-dire l'original du livre sur le rire d'Aristote. Et arrive éventuellement Bernardo Gui, qui est l'inquisiteur, qui, lui, détecte les sataniques et les mécréants et il les détecte à vue, des procès arbitraires et finalement t'as comme tout le monde est brûlé, tous ceux que Bernardo Gui
oui.
la cause des problèmes dans ce monastère, c'est le mal est incarné dans un qui est un jouisseur, dans une qui est une mendiante, dans l'autre qui est un idiot du village, tu sais, et par conséquent, en les brûlant, on va purifier le monastère. C'est pour ça qu'on parle d'inquisition.
Oui, c'est ça.
C'est pour ça qu'on parle de tabou. C'est pour ça qu'on parle de transgression.
Oui,
je veux dire, t'en as un qui est au bûcher puis qui dit, ben, je te renonce, Bernardo Gui. Oui, son c'est péché, ça. C'est de s'être envoyé en l'air avec... une, puis d'avoir joui de la nourriture, puis d'avoir été un jouisseur dans la vie, tu sais.
Ouais.
C'est pas d'avoir assassiné quiconque, mais c'est qu'en jouissant, en ayant du plaisir, en étant vivant, il a attiré le mal dans le monastère. On n'a jamais élucidé les meurtres par Bernardo Gui.
C'est ça.
C'est l'enquête rationnelle qui a amené à la conclusion de qu'est-ce qu'on a compris finalement dans.
Ouais.
Je trouve que c'est comme. C'est ce que ça m'évoque, tu sais, ce que tu me dis. T'as comme. Tu t'émets un tweet, puis finalement, t'es annulé. T'es comme brûlé au bûcher public, là, au bûcher de Twitter, en fait. C'est Twitter qui fait ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Donald Trump est sur Twitter, puis pas sur Facebook, là, tu sais, c'est comme, ni sur Tumblr ou Instagram, ou je sais pas trop, tu sais, c'est comme, il y a un truc avec des conversations spontanées en peu de caractère, tu sais, qui facilitent des immolations publiques, rapides, tu sais, on en finit rapidement, fait que tu fais une blague niaiseuse sur Twitter, puis t'es annulé après, pour toujours.
Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, c'est toujours aussi, c'est le truc nouveau, là, c'est que c'est le pouvoir du nombre aussi, tu sais. C'est s'il y a 5000 personnes en quelques heures qui likent le tweet où on te traite de raciste, ben...
T'es raciste.
C'est la
preuve.
C'est la preuve, tu sais.
C'est ça.
Ça le dit, ça le montre bien, là.
C'est ça, la preuve par le nombre.
Mais bon, eux autres aussi, ils vont dire, là, les auteurs des Hoax Papers, c'est ça, ils soulignent aussi, c'est un peu ça qu'ils voulaient montrer par les Hoax Papers, c'est non seulement l'aspect militant, l'aspect cancel culture qui est le corollaire de ça, ou la suite de ça, ou le moindre moment que tu es en désaccord, tu peux te faire annuler, mais aussi l'idée que, parce que c'est aussi ça, là, que pour eux, il y a de quoi de fondamentalement absurde dans certains des tu sais, dans la suite logique de certains concepts, là.
Oui.
Tu sais, par rapport au sexisme, par rapport au gender studies, que c'est poussé tellement loin, parce que c'est ça qu'ils voulaient aussi, je pense, caricaturer, c'est que ça peut aller tellement loin dans la logique qu'à un moment donné, c'est comme si il n'y a plus rien qui peut être... Ben, tu sais, en fait, le meilleur exemple, là, je me rappelle plus si on fait un article là-dessus ou... Mais tu sais, il y avait l'idée du concept de masturbation non consensuelle, tu sais. Mais en tout cas, c'est juste l'idée qu'à un moment donné, tu sais, ça va tellement loin dans une logique de domination masculine que tu sais, que le niveau de culpabilité est élevé à quand même assez loin. Parce qu'il y a un tabou, donc il y a un tabou qui est en train de se faire autour de l'idée qu'il y a une classe qui opprime, puis on peut pas ne pas l'avouer.
Oui, il faut en finir avec cette oppression, et qu'il y a une classe d'opprimés qui est comme totémisée. Je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire. Puis d'ailleurs, donc James Lindsay, qui est un des auteurs de ces papiers canulars, qui est mathématicien, lui. Qui est mathématicien, puis je pense que ça vaut la peine de le dire aussi, hein, la pensée d'un mathématicien, c'est une pensée qui est pragmatique,
mm-hmm.
puis qui est à la recherche d'une cohérence interne, puis d'une vérité logique, puis qui trouve à tous les carrefours des incongruences, puis qui essaie de les pacifier, ce qui fait qu'il comprend l'articulation à force de travail pour essayer de pacifier ce qui lui semble incongru dans toute la théorisation de la logique oppresseur-opprimé, puis qu'on en finisse, c'est comme qu'on en finisse avec l'oppression, puis que, tu sais, c'est là qu'il en arrive à publier ses papiers. C'est parti, par contre, son intérêt d'une question sur la religion.
Oui, 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 c'est vrai, hein.
Ça fait que lui, il a commencé à se demander, mais en fait, pourquoi les gens étaient religieux, puis comment ça marche, puis à devenir athée, puis à se joindre à des groupes d'athées.
Oui, puis en fait, sa question aussi, tu me corriges, mais c'est si tu perds ta religion, comme la chanson dit, par quoi tu remplaces ça, tu sais?
Parce
que la nature n'est pas le vide, il y a quelque chose qui va venir pallier à l'affaire.
Oui.
Puis au risque de devenir férocement athée, mais c'est une autre forme de...
Oui, mais ça, le structuralisme peut t'aider à le penser. Le post-structuralisme Pas tant. Parce que tout est polysémique et donc tout s'équivaut.
Ouais, hein. Puis tout se vaut.
Tout est ça. Ouais. Mais il s'est retrouvé dans des groupes datés pour se rendre compte que dans les groupes datés dans lesquels il s'est retrouvé, la structure propre à la logique religieuse était reproduite. Finalement, c'est la structure tribale, c'est la structure de clan, la logique de groupe, ouais. Tu sais. Et une chose en entraînant une autre, il a été comme interpellé par la structure, c'est ça autour de quoi les gens de ce que lui appelle, lui et ses acolytes appellent les grievance studies, ce autour de quoi ils tournent. Puis en fait, c'est très polarisant, comme la logique de groupe daté, comme la logique de groupe religieux, tu sais. Ça fait qu'il y a comme une continuité, c'est une affaire de structure, c'est une structure de clan.
Oui, c'est ça. Mais puis donc, encore, je me répète, mais c'est une chose, une structure de clan, mais c'est aussi un clan qui tend à vouloir exclure tout autre clan. Tu sais, il y a quelque chose, parce que, encore
là... Par définition, c'est
ça. Ouais, parce que je pense que, tu sais, James Lindsay n'est pas contre l'idée qu'il y ait du monde qui remette en question, en posant des questions, la façon dont certaines parties de la société... Tu sais, c'est pas comme si c'était un statu quo qu'il voulait préserver. Je pense pas que c'est ça son propos, en fait.
Non, c'est pas... Il veut pas remplacer une vérité par une autre.
Ou maintenir le statu quo absolument, parce que c'est un conservateur...
Non, c'est ça. C'est ça. Non, c'est comme un intérêt purement intellectuel ou une curiosité, un intérêt pour le fonctionnement des groupes, dans le fond, que je partage totalement.
Ouais, ouais.
Puis un groupe, tu sais, pour reprendre encore Marie-Jean Sorel, le psychanalyste que j'ai évoqué, le psychanalyste lacanien que j'ai évoqué à propos d'autres choses, ce qu'il articule, c'est l'idée que le premier pas pour créer une communauté, c'est de déterminer un autre de cette communauté-là. C'est-à-dire que un ensemble ne peut exister qu'en délimitant un intérieur et un extérieur. Tu peux pas avoir juste de l'intérieur. Il faut que tu ailles de l'extérieur pour qu'il y ait une délimitation de ce qui est intérieur.
Ouais, faut qu'il y ait des seuils à franchir.
C'est ça. Puis à partir de là, puis ça c'est plus Marie-Jean Sorel, mais je pense que c'est la question de autour de quoi James Lindsay tourne. Puis qui a motivé ça. Les autres auteurs ont d'autres motivations, mais lui en particulier, j'ai l'impression, parce que ce qui est récurrent, c'est un peu ça, c'est t'as une communauté, t'as un autre de cette communauté-là. Donc, par exemple, dans le thème des grievance studies, ce qu'ils appellent les grievance studies, t'as la communauté des opprimés et la communauté des oppresseurs. Tu peux pas avoir une communauté d'opprimés sans l'extérieur qui est l'oppresseur.
Oui.
Les opprimés n'existent pas sans oppresseurs.
Oui.
Tu sais? Mais aussi, tu as l'instauration de tabous autour desquels on tourne. Tu sais? Et là, c'est des tabous, surtout langagiers. Twitter, c'est dans le langage. C'est que des mots, Twitter.
Oui.
C'est 140, 280 caractères.
Oui.
C'est que ça. Tu n'as pas le droit de dire ci, tu as le droit de dire ça. Qu'est-ce qui décide ce qu'on peut dire et ne pas dire? Ben, c'est les maîtres du temple, c'est les maîtres de la communauté. Fait que là, quand tu as une Bible, le mot est employé, là. C'est une Bible, par exemple, un texte comme celui de Robin DiAngelo sur le white fragility. C'est-à-dire, si tu es blanc d'office, tu es inscrit dans le groupe des oppresseurs. Ton devoir, c'est de te re-questionner sans arrêt, de penser sans arrêt à comment tu es un oppresseur et comment il faut que tu répares ton oppression. Et là, en articulant cette pensée-là, qui est comme très subjective, en fait, ça vient beaucoup de son histoire personnelle à elle, puis comme elle débat avec personne, elle expose, elle débat pas, elle refuse tous les débats. Elle expose, ben, est en mesure de construire une logique cohérente, ou en tout cas une logique peut-être pas cohérente, mais qui se tient, qui tourne autour d'un certain nombre de thèmes et qui lui permet à elle de décider des tabous.
Oui, de ce qui se dit. Puis
qu'elle
se dit.
Les
ouais.
C'est ça.
Ouais.
Et là, quand tu es à l'extérieur de la communauté, tu peux accidentellement transgresser des tabous et en payer cher le prix.
Mm.
Tu veux les transgresser accidentellement parce que tu ne les comprends pas, parce que tu ne connais pas les maîtres du temple qui ouais. sont ceux qui interprètent les tables de la loi, disons.
À moins, puis tu vois, ce qui me vient à l'esprit, et dans, je pense que c'est dans le ton, à moins d'accepter de faire un sacrifice.
Oui.
De dire, j'ai péché, je me suis trompé, je suis ignorant, j'accepte de faire, d'être, je suis repentant, et voici. Là, si tu fais assez dans ce sens-là, on peut te pardonner plus ou moins, mais tu sais, ce qui est arrivé à Brett Weinstein, je pense, c'est qu'il a dit, ben non, un instant, moi, je veux vous parler, mais tu sais, il fait comme un front de, je suis pas d'accord.
Oui.
Et là, il n'y a pas de pas d'accord, tu sais.
Non, c'est ça. Mais c'est ce qui fait aussi que ses collègues sont pas venus se ranger avec lui.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de possibilité.
Mais c'est très touché, pareil. Hein?
Oui.
Parce qu'on a déjà vécu, tu sais, tu peux t'imaginer l'effet du groupe aussi, tu sais. C'est fort l'effet de groupe.
Absolument.
Puis, il n'y a personne qui veut se faire traiter de raciste. Fait que là, tu as certains collègues qui disent je reconnais mon ignorance en tant qu'homme, en tant que blanc, en tant que professeur
avec
privilégié, d'autorité. Je reconnais mon ignorance, j'accepte de prendre vraiment du recul par rapport à ça. Puis, tu sais, t'as une foule, on le voit dans les vidéos, là, t'as une foule de monde qui est presse à faire cette apology-là, tu sais.
Oui.
Puis là, il y en a plusieurs le font. C'est vrai que je peux imaginer dans l'effet de groupe que c'est pas facile de celui qui se lève et qui dit « Ben moi, je m'excuse pas, je veux bien débattre avec vous, mais... » Tu sais, ça va vraiment contre-courant à un moment donné. Là.
Fait qu'on a-tu le droit de dire ça? Que moi, je me souviens très, très bien d'une fois en particulier où on était dans un groupe... c'est un groupe qui est en train de se former, qui était un groupe de Lacaniens, il y a très, très longtemps. Un groupe de Lacaniens qui voulait fonder quelque chose. Puis on s'est retrouvés là parce qu'on était intéressés, parce qu'on était comme proche de Lacan, qui est le psychanalyste de cette mouvance-là postmoderne.
Ouais.
Structuraliste et post-structuraliste. Tu sais qu'il y a
ouais.
68 heures, post-68 heures, tu sais, de ce temps-là. Et on est là, et ce qu'on est appelé à faire, c'est de former des groupes parce qu'il faut absolument se mettre au travail, parce que c'est ça qui est inclus dans la théorie, parce que l'inconscient exige ça de nous urgemment et que c'est important de se mettre au travail. Et donc, on était venu voir de quoi il en retournait, puis finalement, on s'est retrouvé comme sous pression de se trouver des coéquipiers.
De se mettre au travail.
De se mettre au travail parce qu'on n'était pas des touristes, puis il fallait qu'on travaille
ouais.
sur les sujets dont certains décidaient. Puis toi, tu t'es levé, puis tu as dit « Je suis désolée, j'étais venue en touriste.
» T'es touriste, je resterai.
Et t'es parti.
Oui, je vous ai laissé.
Et moi, je suis restée là à me dire « Oh my God, oh my God! » Comment
je me débrouille?
Je suis tout seul! C'est la même chose.
Oui, puis il y avait des ennemis.
C'est pareil.
Il y avait des ennemis dans ce temps-là aussi.
Oui, il y a des ennemis. T'as comme les groupes lacaniens fonctionnent sur la foi qu'on est un camp retranché,
ben,
puis qu'à l'extérieur, on est cerné de toutes parts par des gens qui ne comprennent pas.
Oui, mais de la même façon, c'est ce que tu décrivais tantôt, que pour avoir une groupe et une communauté, t'as besoin d'avoir des frontières, puis des territoires, puis des seuils. Parce que les lacaniens vont vite identifier les non-lacaniens qui ont une impureté psychanalytique. Mais
les égothérapeutes.
Mais les psychanalystes vont identifier les non... ceux qui ne reconnaissent pas l'inconscient. Puis les psychanalystes... Tu sais, à un moment donné, chaque groupe se forme son ennemi. Puis,
c'est ça.
Puis se différencie par rapport à l'ennemi.
Oui, puis c'est la condition de son existence.
Mais,
c'est son identité. C'est comme ton ennemi détermine ton identité
oui,
de groupe.
Mais puis moi, c'est toujours une question que je garde toujours en tête. Tu sais, c'est qui l'ennemi de cette gang-là?
Cette gang-là, tu parles des trois en général?
Quelque chose que j'ai en tête en général, parce que c'est souvent, quand on parle de crime, tu sais, c'est des gens, les gens qui commettent des meurtres, parce qu'on parle de crime, souvent, c'est des meurtres, c'est des crimes assez forts, là. Les gens ont été humiliés par du monde, tu sais, puis ils érigent une certaine catégorie de personnes en ennemis, puis c'est pour se venger, ou... Tu sais, il y a ça dans la dynamique. Fait que c'est qui l'ennemi, tu sais, c'est contre qui ils se vengent. Des fois, c'est une personne, mais la personne est devenue symboliquement un groupe de personnes, puis etc., etc. Mais puis c'est là, je veux pas dire que chaque... de parler de la radicalité subjective du savoir, mais ce jour-là, à un moment donné, que la ligne est mince, je conçois tout à fait là, que quand ils parlent de l'ennemi, ceux qui ont fait les Hawks Papers, je le vois de qui ils parlent, puis que ces gens-là existent, je les vois dans la vidéo, puis mm-hmm. je vois leur place à l'université, tu sais.
Mm-hmm.
Mais en même temps, c'est tentant de caricaturer ton ennemi, ou de parler contre ton ennemi, ou d'en rajouter sur le dos de ton ennemi, parce que ça devient aussi de légitimer ce que tu fais. Tu sais,
ça consolide
ton affaire. Puis on l'a vécu en psychanalyse, tu sais, tu te rappelles? Souvent, quand on était dans un clan psychanalytique puis qui parlait des Américains, qui étaient aussi psychanalystes, mais du genre de legal psychology, puis que eux comprenaient pas ce que nous, on comprenait. Puis finalement, tu passes plus de temps à définir ce qu'ils comprennent pas qu'à définir ce que toi, tu comprends. Tu sais, il y a ça comme glissement aussi.
Oui,
t'sais.
Oui.
Mais bon, je dis ça, pourquoi je dis ça?
Moi, tu sais, comme tu dis, c'est qui l'ennemi, mais tu pourrais dire simplement, c'est qui l'autre.
Oui.
Parce que, tu sais, t'es pas nécessairement dans un rapport vengeur ou dans un rapport destructeur. Ouais. Tu peux être juste dans un rapport d'opposition, tu sais. Puis mm-hmm. l'autre, tu peux bien le construire comme tu veux quand t'as besoin de définir qui t'es toi, tu sais. Fait que eux, c'est qui l'autre? L'autre, c'est des gens qui sont dans l'irrationalité, dans une sorte de pensée néo-religieuse, avec des gourous, avec des tabous, tu sais. Mais pour ceux à qui ils s'opposent, tu sais, des éditeurs de revues, les gens qui les ont publiés, c'est eux qui sont l'autre.
Ouais. Ben bref, on pourra en reparler parce qu'il y a quand même cette nouveauté-là de, il n'y a pas si longtemps, là, des gens qui se disent éveillés, wow, tu sais, qui sont éveillés à de nouvelles choses. Puis c'est intéressant de voir à quoi ils sont éveillés, puis qu'est-ce qu'ils pensaient qu'ils avaient scotomisé avant, puis qu'ils ne voyaient pas, puis qu'ils n'étaient pas dans leur champ de vision, qui maintenant réalisent ce qui est très important. Mais là, en même temps, quelle importance ça prend, jusqu'à quel point c'est discutable, contestable, c'est quoi ces éléments-là? Là, on voit que ça tourne autour de la domination des hommes blancs, mais plus que des hommes aussi, mais de ce que ça veut dire être... tu sais, ils disent en anglais le maleness, là, tu sais, le c'est quoi la...
Oui, maleness, whiteness.
Ouais.
Oui.
Puis ça ratisse large. Fait que c'est tous des thèmes qui sont centraux à ce qui est discuté. Puis, tu sais, ça, on peut se poser la question, admettons que ce courant-là continue puis prend de l'ampleur, puis gagne en popularité, puis il y a de plus en plus de monde qui réalise l'importance de s'éveiller à ça. C'est quand même pas mal, en plus, comme terme, là, s'éveiller à cet aspect-là. Ça serait quoi la vie dans 10, 15, 20 ans? Il n'y aurait pas une autre sorte de domination qui aurait lieu, là, puis d'autres groupes qui voudraient s'y opposer. Là. C'est vraiment une révolution, c'est-à-dire que ça revient au point initial. Là.